très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pendant 60 minutes. On va vous montrer que la France a des idées, qu'elle sait les développer et que vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur une question centrale, relayée bien au-delà du mouvement des Gilets jaunes. Comment redonner de l'air au commerce du centre-ville, trop souvent étouffé par les grandes surfaces et les zones commerciales en périphérie? C'est une question d'attractivité et l'on voit ressurgir des idées toutes simples qui feraient bien rigoler nos grands-mères, comme développer des marchés en centre-ville avec des commerçants locaux. Elles fabriquent les fameuses chaises ultra solides du jardin du Luxembourg ou encore les chaises bleues de la promenade des Anglais. Elle a un peu plus de 40 ans. Edmond et Fils, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et comment faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur Internet? Une plateforme sensibilise les jeunes aux fake news, aux fausses informations. Ça s'appelle Coud et c'est la solution. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, bienvenue à tous. Tous les jours, entre 13h et 14h, on met en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Et aujourd'hui, cette question centrale qui fait partie du mouvement des Gilets jaunes, comment redonner de l'air au commerce du centre-ville, trop souvent étouffé par les grandes surfaces et les zones commerciales? Anissa, on attend toutes les questions.
Oui, bien sûr, La France bouge, c'est votre émission, donc n'hésitez pas si vous avez des questions aux invités d'Elisabeth Assayag ou peut-être de bonnes idées à nous soumettre.
Pourquoi pas,
c'est le 39-21, 50 centimes la minute. Et vous êtes déjà très nombreux à poster des tweets avec le hashtag Europe 1. Continuez, on vous lit jusqu'à 14h.
Et pour en parler dans le studio, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bonjour Aurélien.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Notre coach du jour, Jean-Christophe Sibéras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le DRH de Solvay. Merci d'être avec nous. Alors, comment redonner de l'air au commerce du centre-ville? Ils sont trop souvent étouffés par les zones commerciales. C'est une question d'attractivité, de proximité aussi, de pouvoir d'achat. Et l'on voit ressurgir des idées simples, comme par exemple développer des marchés en ville avec des commerçants locaux. Bonjour Romain Alamand.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Biltoki. Alors Biltoki, ça signifie le bon endroit, l'endroit qui rassemble en quelque sorte en basque, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement.
C'est une histoire de famille. Au début, vous vouliez changer le monde, c'est ce que vous nous aviez dit. À l'origine, vous étiez dans l'immobilier classique à Anglette.
Exactement. On veut toujours changer le monde, on n'a pas changé d'idée. Oui, on a créé en 2009 une société qui construisait des logements. Et dans le cadre d'un de nos projets, donc à Anglette, chez nous sur la Côte Basque, on a eu l'opportunité de créer un premier marché, une première halle. Et donc, on l'a ouverte en 2015. Et tout de suite, ça a donné des envies à d'autres métropoles, d'autres villes. Et aujourd'hui, on en a 5 à notre actif. Et c'est notre métier unique puisqu'on est spécialiste de halles et on ne fait plus de logements.
Donc pour résumer, à la base, vous êtes dans l'immobilier. Hein, vous aviez 1200 mètres carrés, je crois, de commerce à construire. Et comment ça vous est venu, cette idée de se dire, mais au lieu de je ne sais pas trop quoi en faire, je vais en faire des halles. Comment ça s'est arrivé?
Mais en fait, on est sur, pour nous, la place emblématique de la ville à Anglette. Il y a beaucoup de quartiers, donc c'est une ville très étendue. Et c'était pour nous l'endroit pertinent pour créer une vraie polarité, un vrai cœur de ville pour les habitants.
Parce qu'il n'y en avait pas à Anglette.
Mais
le
en fait,
premier,
c'est très
Bayonne.
Alors, il n'y a pas de halle à Anglette, exact. Il y en a à Bayonne, il y en a à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz. Mais à Anglette, qui est la deuxième ville de l'agglomération, il n'y a pas de halle. Et donc, on a voulu la créer pour créer un vrai lieu de vie pour les habitants. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une demande forte depuis. Et donc, ça a été tout de suite une réussite. Et donc, on est amené à en faire d'autres. Aujourd'hui, on en a 5 à notre actif.
Et ça va se développer. Que dit le coach Jean-Christophe Sibéras?
C'est une idée assez simple. Mais alors, finalement, la question, c'est on démarre comment? C'est-à-dire, vous êtes là au milieu d'une ville, au centre, et puis vous dites, on va faire une halle. Comment vous faites concrètement?
C'est une bonne question. Au début, on l'a fait de manière naturelle. En fait, comme on vivait dans l'agglomération, on est allé voir le boucher chez lequel on était client, le poissonnier, le boulanger, on leur a dit, on a cette idée, est-ce que c'est pertinent selon vous? Est-ce que ça vous dit de monter le projet avec nous? Et donc, on a fait fédérer 6-7 commerçants qui ont décidé de se lancer. Aujourd'hui, il y en a 25.
Aurélien, je me tourne vers vous sur le commerce de Centre-Ville. Quelques chiffres, combien de magasins ont fermé ?
Alors évidemment, le phénomène est ancien. Plusieurs études menées dans différentes régions de France démontrent par exemple que durant les décennies 80 et 90, ce sont 25 à 30% des petits commerces alimentaires qui ont disparu des territoires ruraux. Cela s'est fait progressivement au fur et à mesure que les supermarchés s'implantaient. Et concernant les boulangeries par exemple, eh bien, l'INSEE a noté que le phénomène s'est accéléré à partir de 1999. Donc vraiment, commerce par commerce, secteur par secteur, ça a pris du temps. Et pour les boulangeries, ça fait finalement qu'une quinzaine d'années.
C'est ça, vous dites, hein, ça prend du temps. Romain à la main, comment ont réagi les habitants ?
Alors en fait, ce qui est fort, c'est que les habitants se sont très vite appropriés le lieu comme un lieu de vie et pas uniquement un lieu marchand. Donc on y retrouve le boucher, le poissonnier, le primeur, donc des commerçants locaux qui connaissent la clientèle et qui revendent les produits du territoire. Mais surtout, en fait, c'est un lieu convivial. Les gens passent du temps pour l'apéro entre copains, collègues, en famille.
Parce qu'il y a des cafés aussi.
Parce qu'il y a des cafés, il y a un bar à vin caviste. Et en fait, chaque stand transforme ses produits. Et donc, on peut déguster les produits de chacun transformés sur son stand. Et ça crée une vraie vie en cœur de ville. Et c'est pour ça que les habitants viennent. Ils goûtent les produits, les bons produits du territoire. Et dans un lieu sympa où ils ont envie de revenir, en fait.
Alors, pour Biltoki, vous proposez un projet clé en main. Si, c'est aux commerçants.
Tout à fait, aux commerçants et à la ville surtout.
Et à la ville.
Aujourd'hui, on se substitue à la ville puisqu'on prend un lieu soit du patrimoine public avec une convention longue qui nous permet d'investir les lieux et de faire un vrai projet d'ensemble. Et au lieu de gérer les halles elles-mêmes avec des équipes et des régies, on devient locataire de la ville. On dit, on vous paie un loyer sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on vous recrée votre halle avec les commerçants locaux et avec une équipe Biltoki sur place qui gère le café et anime les halles au quotidien avec près de 100 événements par an.
Mais vous trouvez où l'argent, puisque vous financez 100% du coût d'aménagement de la halle ?
Ben alors, avec des partenaires bancaires financiers de manière classique. Et aujourd'hui, comme on est un peu plus solide, on arrive de manière indépendante à avancer et à créer ces projets dans les métropoles françaises.
Notre coach ?
Vous avez un potentiel énorme. D'abord, vous avez confiance en vous, parce que 30, 40, 50 ans, c'est bien, ça montre que vous êtes optimiste sur l'avenir, c'est sympa. Mais ceci dit, on peut se dire ça en France, c'est pas seulement 4 ou 5 endroits, ça pourrait se faire dans énormément de communes où finalement on se débat avec un régisseur municipal qui vient faire ses prélèvements et tout. En fait, vous proposez, c'est un vrai business en fait.
Oui, complètement. Et aujourd'hui, c'est un modèle économique qui fonctionne pour le commerçant, pour la ville, pour nous. Tout le monde est gagnant. Ouais. Et on est les habitants surtout, c'est quand même ça l'enjeu.
Et alors justement, vous avez plein de projets en cours, notamment à Toulon, je crois.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un sujet pour les villes moyennes, c'est un sujet pour les métropoles aussi, avec des différences en fonction des métropoles. Mais aujourd'hui, on a remporté un concours à Toulon pour réhabiliter les vieilles halles de Toulon qui sont fermées depuis 15-20 ans. Et donc, on va le faire et à partir de janvier, on s'y attelle avec notre équipe. Et il y a d'autres concours qui sont en cours d'ailleurs, comme à Saint-Étienne, où aussi il y a projet de réhabiliter les halles du centre-ville. Et donc on aura les réponses du concours très bientôt. Si on est lauréat, on fera aussi les halles de Saint-Étienne.
À Talence, je crois, en Gironde, ce week-end.
On a ouvert, oui, il y a quelques jours, donc il y a 3 jours. Et il y a déjà beaucoup d'habitants dans le lieu, c'est hyper enthousiasmant, les commerçants, la banane. Les habitants aussi, les habitants nous disent... Enfin, on voulait ça dans notre ville, se retrouver dans un lieu sympa avec les bons produits.
On vient vous chercher maintenant ou c'est toujours vous qui allez vers les villes et vous proposez vos services ? Comment ça se passe ?
C'est vrai qu'on a des opportunités, ça, c'est, on ne s'en cache pas, c'est sympa, ça met un coup de vitamine de se dire les gens nous appellent. Mais on travaille quand même à identifier les villes où c'est nécessaire, où c'est pertinent, où il y a un besoin et donc on contacte toutes les grandes villes qui en ont besoin.
On reste ensemble, on continue à parler de cette nouvelle forme de dynamisme des centres-villes.
Il est 13h09.
Europe 1.
Pour les artisans aussi, c'est parfois trop cher d'être en centre-ville, alors ils ferment ou ils s'éloignent. Alors pourquoi pas créer des lieux pour les artisans en partageant les machines et les ateliers. L'entreprise s'appelle Make Ici et c'est ça, la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h avec vous, Elisabeth Assayag. Et cette question que vous posez à vos invités aujourd'hui, comment redynamiser les centres-villes et les commerces de proximité? Vous pouvez participer à cette émission, vous le savez, chaque jour. Vos propositions, vos témoignages, vos questions, c'est au 3921, le standard d'Europe 1, et puis sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et pourquoi pas créer une génération d'entrepreneurs capables de dynamiser les territoires aussi bien urbains que ruraux? C'est votre idée, Nicolas Barre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Make Ici. Votre entreprise existe depuis 6 ans. Vous êtes, c'est comme ça que vous l'appelez, la première manufacture solidaire et collaborative.
Oui, c'est ça. On a ouvert à Montreuil en 2012 avec ma femme. L'idée, c'était de, habitant Montreuil, on voulait quitter notre job respectif, qui était la pub et la finance. Et on voulait, en fait, Montreuil est une ville où il y a beaucoup d'artisans, qui ont pas les, dont une partie n'a pas les moyens de se payer des machines, quoi, les équipements qui sont nécessaires, et n'ont pas accès à une communauté de savoir-faire pour les aider. Donc du coup, on s'est dit, on va créer un lieu dans lequel on va investir et mettre à leur disposition les machines, les outils, les zones de stockage et l'écosystème qui a besoin d'eux pour fabriquer, concevoir et aménager.
En plus, vous l'avez monté sur les ruines d'une ancienne usine électrique, hein, donc c'est tout un symbole aussi.
Voilà,
hein.
C'est-à-dire que ce n'est pas une des ruines, mais il y avait à l'époque 800 ouvriers, l'usine Dufour qui a fermé en 1981.
Alors vous êtes en quelque sorte le camp de base d'une centaine, même un peu plus, d'entrepreneurs, hein, de ce qu'on appelle des makers, c'est ça?
Oui, alors nous on s'adresse uniquement à ceux qui ont besoin d'outils de conception et de fabrication. Donc c'est en grande partie des artisans, des designers, mais des TPE de la production, des entrepreneurs qui lancent des marques Made in France. Voilà, et des entrepreneurs du bâtiment aussi.
Alors Aurélien, on dit aussi que c'est une Fab Lab, c'est comme ça qu'on les appelle.
Voilà,
c'est quoi exactement?
Alors,
une Fab Lab?
C'est un laboratoire de fabrication, hein, c'est une marque déposée qui parle donc de ce type de lieu où l'on fabrique, où on innove à partir d'objets. L'idée de base, c'est vraiment ça, ce tiers-lieu. Donc c'est pas le bureau, c'est pas la maison non plus, mais c'est un endroit où on va fabriquer, on va innover. Et donc, exactement comme ça vient d'être expliqué, on met à disposition, on partage des outils comme des imprimantes 3D, des découpeuses, des fraiseuses, des fers à souder. Les premiers ont vu le jour aux États-Unis et en Norvège au début des années 2000. Et le premier Fab Lab français a été lancé en 2009 à Toulouse, et il y en a maintenant un peu plus d'une cinquantaine en France.
Nicolas Barre, c'est une sorte de coworking en fait pour les artisans?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Coworking pour artisans, ils payent un abonnement, ils n'ont pas d'investissement, ils n'ont pas de contrat de bail, ils peuvent venir, ils ont accès illimité. On est une entreprise de services, donc on leur fournit des services. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin autant de services que les autres. Après, juste, tous ces lieux-là sont nés en France à la fin du 19e siècle.
Et vous essayez de les réinventer, et surtout qu'ils perdurent.
Voyez, il y avait le bateau Lavoir et la ruche à Paris, dans lesquels il y avait des artistes comme Picasso, Modigliani et d'autres. Et à l'époque, la France était réputée, Paris était réputée comme la ville la plus innovante du monde. Donc on a juste remis, on n'a rien inventé, on refait juste ce qui marchait il y a 100 ans en France.
Que dit notre coach Jean-Christophe Sibéras?
J'ai envie de vous illustrer, c'est quel type de produit on fabrique concrètement, qu'est-ce qui sort de cette usine multiple?
Alors des tables, des meubles, beaucoup de meubles, donc des tables, des chaises. Il sort des robots, il sort des installations interactives pour des magasins des quatre temps. On en a fait une il y a dernièrement pour une marque à la virgule. Il sort aussi des œuvres d'art, parce que beaucoup d'artistes n'ont pas les savoir-faire pour fabriquer leurs œuvres, notamment les artistes contemporains et les artistes numériques. Donc ils ont besoin d'artisans, ils sous-traitent à des artisans pour les fabriquer. Mais on va dire qu'à 50%, c'est de l'aménagement intérieur. Donc en fait, il y a le gros de notre activité et de celle de nos résidents, c'est des commandes pour réaménager des lieux de travail, des commerces, des restaurants.
Si on est particulier et qu'on a envie de fabriquer ses propres meubles, est-ce qu'on peut venir chez vous? Est-ce que vous hébergez des particuliers?
Oui, c'est-à-dire qu'on a, on a un atelier dédié aux formations, et en fait on a un programme de formation tous les jours de la semaine et les week-ends, où en fait les particuliers viennent pour fabriquer leurs objets et ils sont coachés par un artisan pro.
C'est une super idée de
cadeau
de Noël.
C'est ce que, ouais, tout à fait. Jean-Christophe Sibéras.
Oui, alors moi je suis DRH, donc je me dis, mais au fond, pour la sécurité, s'il y a un accident, qui c'est qui est responsable dans ce cas-là? C'est vous? C'est l'entreprise? Comment
nous,
ça marche?
Nous, nos responsabilités, c'est de fournir un lieu aux normes. Donc c'est du code du travail. À part la zone pour le public qui est ERP, entreprise recevant un établissement public. Après, il y a les assurances. Voilà. Après, on reçoit toutes les semaines des grands groupes. Hein. On travaille avec une cinquantaine de grands groupes, notamment du CAC 40 et autres, qui viennent innover, faire des team building, travailler en équipe ou fabriquer des prototypes d'objets.
Alors, vous êtes situé à Montreuil. Est-ce que ça a redynamisé la ville? Est-ce que vous avez apporté quelque chose à la ville, très concrètement?
On va dire que, alors après, on regarde Montreuil avant. Montreuil, ça a toujours été une ville où il y avait ça. Après, nous, on l'a créé de manière un peu plus entrepreneuriale. Donc, nous, on a. Depuis, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu lancées à Montreuil aussi, depuis qu'on s'est lancé.
Donc, voilà. Ça a développé l'activité économique.
Je ne peux pas le dire, mais quand on voit quand.
Si, vous pouvez le dire, au contraire.
Il y a beaucoup d'entreprises solidaires qui sont lancées à Montreuil après nous, hein, comme Simplon, par exemple, ou d'autres. Voilà, Éthic qui a créé un campus de coworking. Après, à l'époque, en 2012, on était à la fois dans le monde des Fab Lab et autres, mais on était surtout le plus grand lieu de coworking de France qui est ouvert. Alors, depuis, il y en a plein qui.
Alors, vous vous êtes développé, vous avez d'autres projets en cours.
On a ouvert il y a 2 mois à Marseille, 3500 mètres carrés. On a ouvert à Aix. Et en 2019, on va ouvrir à Nantes et au cœur du Morvan. Voilà, étant bourguignon, c'est un projet qui me tient à cœur.
Aurélien, preuve que ça se développe, il y a de nouveaux métiers en plus qui se créent.
Oui, tout simplement, dès janvier prochain, l'université Paris-Saclay va accueillir une dizaine d'étudiants au sein d'un tout nouveau diplôme qui s'appelle Manager de Fab Lab. C'est une formation qui donc correspond à ces besoins de plus en plus nombreux, donc fabrication numérique dans des secteurs comme l'éducation, l'humanitaire, la recherche ou le design. Ça n'existait pas et donc voilà, Paris-Saclay va former des managers de Fab Lab, ça va commencer en janvier.
On reste ensemble sur Europe 1, il est 13h18.
Europe 1.
Accompagner les collectivités locales pour relancer les centres-villes, c'est la mission des managers de centres-villes. La France bouge tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1 et grâce à vous Elisabeth Assayag, grâce à votre invité, vos invités aujourd'hui, nous découvrons toutes les initiatives françaises qui existent pour redynamiser les centres-villes et les commerces de proximité. Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas, vos questions, vos témoignages, vos réactions, c'est dès maintenant au 3921, le standard d'Europe 1, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et pour redonner de l'air aux commerces des centres-villes, il faut parfois un chef d'orchestre et c'est ce que vous faites. Bonjour Magali Bonnier.
Bonjour.
Vous êtes responsable Île-de-France du club des managers de centre-ville. Alors d'abord, c'est quoi un manager de centre-ville?
Alors, comme vous venez de le dire très précisément, c'est un chef d'orchestre. Il a besoin d'abord de connaître le fonctionnement des collectivités territoriales, mais également tout ce qui est urbanisme, réglementation, ce qu'est une entreprise, comment on crée une entreprise, comment on s'installe, quels sont les facteurs qui font qu'une entreprise peut bien se développer en centre-ville. Animer une association, pour certains, c'est très important. C'est même parfois leur priorité. Voilà, c'est un chef d'orchestre et il doit avoir un projet de ville, bien entendu, défini avec les élus, en concertation, les élus, les commerçants, pour redynamiser le centre-ville.
Alors là, en ce moment, vous êtes dédié à la ville de Trappes.
Trappes-en-Yvelines,
concrètement,
oui.
Ça donne quoi quand on est manager de la ville de Trappes?
Trappes-en-Yvelines, pour être très concret, c'est en fait l'enfouissement de la Nationale 10 qui va permettre de recréer un centre-ville avec la création d'un plateau urbain. Et donc toute la création, la redynamisation du centre-ville va être tournée autour de cette création de plateau urbain qui relie le nord et le sud de la ville.
Donc c'est une question d'espace, c'est une question de route?
C'est une question d'espace, c'est une question de route et c'est une question aussi de centralité, de redonner du cœur à une ville. Comme disait tout à l'heure un de vos invités, il y a des villes qui ont plusieurs espaces de commerçants un peu éparpillés. On a souvent, en créant de l'urbanisme et en créant des quartiers, on a souvent mis en pied d'immeubles parce que c'était plus facile à loger, des commerces. Mais ces commerces-là ne peuvent pas vivre sur une zone de chalandise trop restreinte. Donc c'est redonner une véritable centralité à une ville en termes de commerce.
Donc j'imagine que vous travaillez avec des architectes, avec des paysagistes, avec tout le monde, tous les élus.
Tout.
Jean-Christophe Sibéras, notre coach.
Oui, alors finalement, je suis un auditeur, ça m'intéresse ce projet centre-ville. J'ai envie de devenir manager centre-ville. Alors c'est quoi les critères, les compétences que vous attendez là, pour faire ça?
Alors les compétences qu'on attend, c'est surtout avoir envie de créer une ville et de créer un dynamisme dans la ville. Ce n'est pas forcément des compétences très techniques, il en faut, c'est vrai, mais on peut avoir un service urbanisme, c'est arriver à mettre tout ça en musique pour que ça fonctionne.
Mais il y a un diplôme de manager de centre-ville?
Alors, il n'y a pas de diplôme de manager de centre-ville, il y a un référentiel pour être manager de centre-ville. Et le club des managers va lancer 3 formations à partir de janvier en collaboration avec une université sur un manager de centre-ville animateur d'union commerciale, un manager de centre-ville pour une collectivité et un manager qui va être plutôt pour une communauté ou une communauté d'agglos.
Alors Aurélien, je me tourne vers vous. Vous avez un petit peu approfondi ce profil de manager de centre-ville.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est en train de devenir un nouveau métier. Donc le CMCV, le Club des managers de centre-ville et de territoire, compte 250 managers en activité. Et donc il y a ces trois profils selon le niveau de complexité d'intervention. D'abord le manager de commerce qui sera donc plus dans la coordination. Ensuite le manager de centre-ville qui là assure vraiment la fonction d'interface avec les collectivités. Il a un petit peu plus de levier d'action, notamment en termes de communication. Et enfin, le manager de ville et de territoire qui est plus chargé d'une fonction d'expertise, de conseil pour donc dynamiser le tissu commercial. C'est vraiment lui qui sera le leader du projet. Et donc, des formations professionnelles sont en train de se développer.
Mais alors là, par exemple, pour la ville de Trappes, vous avez le pouvoir, le maire a le pouvoir de réduire, par exemple, le plan d'occupation des sols ou de, je sais pas, retirer une banque. Alors, qui décide de tout ça?
Alors, non, mais par contre, il faut définir un périmètre d'intervention et une protection de ce périmètre. En fait, il existe des outils aujourd'hui, mais que peu de collectivités mettent en œuvre. Parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont méconnus.
Et vous êtes là pour leur indiquer, pour leur montrer ces outils.
Absolument. On est là pour leur indiquer ces outils et ce qu'il faut mettre en œuvre pour justement protéger un linéaire commercial ou créer un linéaire commercial dynamique. C'est comme un centre commercial à ciel ouvert. C'est exactement la même chose. Mais par contre, les centres commerciaux, ils savent faire une composition commerciale qui fonctionne. En centre-ville, ce sont des opportunités foncières, des opportunités de locaux. Et nous, on essaie de faire en sorte de matcher tout ça.
Alors, existe-t-il des centres-villes qui ont retrouvé une bonne santé?
Oui.
Vous avez des exemples?
Oui.
Je crois qu'il y a le Havre, non?
Le Havre, qui a... Au départ, ils ont installé un manager de centre-ville justement pour lutter contre la vacance commerciale, qui était très élevée, qui était de 16 et quelques pourcents sur l'ensemble de la ville, et qui aujourd'hui en centre-ville se retrouvait à 3,2%.
Et qu'ont-ils fait alors? Ils se sont organisés comment?
Ils ont protégé les linéaires commerciaux, ils ont interdit certaines activités ou préconisé certaines activités, et petit à petit, ils sont intervenus au fil du temps sur chacune des cellules qui étaient libres.
Jean-Christophe Sibéras.
Enfin, quand on connaît les centres-villes, ce qui est frappant, c'est que ça met beaucoup de temps à bouger. On dit des fois, ça fait des années, il y a beaucoup de projets, puis on ne voit pas les trucs avancer. Alors comment on fait pour garder la pêche et la foi pour que ça bouge?
Il faut aimer sa ville. Non, mais au-delà de ça, il y a quand même des outils qui fonctionnent.
Lesquels, par exemple?
Le droit de préemption. Alors c'est vrai que beaucoup de collectivités territoriales ne veulent pas le mettre parce que ça a un coût financier relativement important et qu'elles deviennent détentrices d'un fonds commercial ou d'un droit au bail, ce qui n'est pas évident à gérer. Mais il y a aussi d'autres outils comme a mis en place la ville de Paris avec la SEMA Est, qui a lutté contre la monoactivité sur certaines rues parisiennes pour réimplanter des activités pluridisciplinaires sur certains linéaires. Alors ça, c'est plus des... On pourrait appeler ça des SEM d'aménagement, parce que là, c'est acquérir des murs, remembrer parfois ces locaux commerciaux qui sont des fois de surface très petite et qu'il faut... pour que ce soit viable, des surfaces un petit peu plus grandes. Voilà, c'est tous ces outils-là qu'on peut mettre en place. Mais garder la foi, oui, on la garde parce que ça bouge, ça réussit à bouger.
On reste ensemble, on continue de parler de nos centres-villes et de nos commerces de proximité.
Il est 13h28.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend. Vos témoignages, vos questions, je crois qu'il y en a déjà, Anissa.
Il y en a beaucoup sur Twitter.
Nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h avec vous, Elisabeth Assayag. Et avec cette question aujourd'hui, comment redynamiser les centres-villes et les commerces de proximité? Vous êtes nombreux à proposer vos solutions. Continuez encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 39-21, c'est le standard d'Europe 1, Elisabeth.
Et oui, toujours avec le coach du jour, Jean-Christophe Sibéras, le DRH de Solvay, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 qui est là pour nous apporter, nous éclairer les informations en plus et pour avec nous pour en parler. Nous sommes avec Romain Alamand, le cofondateur de Biltoki, Nicolas Barre, le cofondateur de Make Ici, et Magali Bonnier, vous êtes responsable Île-de-France des managers de centre-ville. Je voulais vous demander, est-ce que toutes les villes peuvent être relancées? Est-ce qu'on peut redynamiser toutes les villes?
Alors je pense que oui, mais pour cela, il faut qu'on prenne en considération plusieurs éléments comme le logement, l'emploi sur la ville, faire revenir les gens en centre-ville, parce que beaucoup de locaux se trouvent libres au-dessus des magasins et ainsi de suite. Donc le logement est important et faire revenir des gens en centre-ville. Bon, les différentes.
Donc une histoire
lois...
de logement et de coût de logement.
De coût de logement,
c'est
oui,
ça, tout à fait. Nous sommes avec Dominique. On a eu une auditrice qui nous a appelé. Dominique, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Et alors, vous êtes présidente d'une association.
Voilà, je suis présidente d'une association qui s'appelle Marchétique.
Et qui favorise commerce de proximité, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est de maintenir ou de développer les marchés de toutes les villes et villages de France. Mmh. De maintenir ce commerce de proximité, les circuits courts, valoriser les productions locales, redévelopper le maraîchage et sensibiliser aux projets, aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux et rendre de nouveaux services.
Et ça fonctionne?
Alors, pour l'instant, on est en phase de démarrage.
Ah,
on a créé une charte de la... On a créé une charte de labellisation avec Ecocert Environnement pour valoriser les efforts faits par les villages et les villes qui rentreront dans la démarche. Et l'objectif, c'est de faire venir de nouveaux clients, des touristes, et maintenir vraiment une activité locale d'agriculture, de circuits courts et de produits de qualité.
Romain Lamont, quand vous entendez la création d'une nouvelle association qui s'apparente un petit peu à ce que vous faites aussi.
Mais bonjour madame, oui, ça me parle évidemment. Et surtout que les marchés de plein vent, si j'ai bien compris, on parle bien de marchés de plein air. C'est
oui,
très complémentaire d'une halle couverte. Et en général, historiquement, dans les villes, quand on voit une halle couverte qui, elle, est ouverte tous les jours, une ou deux fois par semaine, voire trois fois dans les plus grandes villes, il y a un marché de plein vent qui se trouve devant. Donc c'est très complémentaire.
Dominique, on vous souhaite bonne chance avec votre association Marchétique.
Et bravo.
Et bravo.
Merci beaucoup.
Anissa, on a reçu énormément de messages sur Twitter.
Oui, il y a beaucoup de messages dans les propositions des auditeurs pour redynamiser les centres-villes. On a Marc qui nous dit « Ne plus implanter d'hyper et d'intermarché dans les banlieues ». Ça, c'est une réflexion qui revient très très souvent sur Twitter. Jeannot nous dit « Augmenter le tarif du stationnement ». Par exemple, ça peut faire partie des idées pour redynamiser les centres-villes.
Ça vous fait réagir, non? Je vous vois un petit peu faire la tête.
Je ne suis pas sûre que ça, ce soit une bonne chose. Je pense qu'ils veulent le faire ou qu'ils proposent de le faire pour qu'il y ait un turnover de voitures. Parce que bien souvent, dans les centres-villes, se mettent des voitures, ce qu'on appelle des voitures tampons. Et donc, les consommateurs ne peuvent pas se garer très facilement. Mais quand on fait des enquêtes auprès des consommateurs, on s'aperçoit que le problème du parking ne vient qu'en septième position.
Oui, parce que si tout est concentré en centre-ville, finalement, on règle un peu le problème de la voiture.
Voilà.
Romain Lamont, vous justement, vous dites qu'on a besoin aussi des grandes surfaces, des hypermarchés.
En fait, je dis que c'est complémentaire.
C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, on ne prétend pas se substituer aux supermarchés qui fonctionnent en ville parce qu'ils vendent beaucoup de non-alimentaires aussi, et même de l'alimentaire, mais... Notre démarche, elle est de proposer les produits du territoire et des bons produits, mais aussi et surtout de créer un lieu qui rassemble les habitants. Et cette fonction-là, de convivialité, comme on l'appelle, elle est très importante pour nous. Elle est complémentaire du supermarché, qui est plus une consommation subie. Aller passer une heure au supermarché, c'est moins drôle qu'une heure au restaurant ou dans un lieu vivant.
Anissa,
on a une réflexion de Thierry sur Twitter qui nous dit « C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les activités sont éloignées des concentrations de population. À l'heure de l'écologie, sortez le facteur voiture de vos logiciels. » Et puis on a une question pour Romain Lamont aussi. Il y a des gens impatients, Biltoki est finalement victime de son succès. Patrice demande « Biltoki à Dijon, c'est pour quand ?»
Alors c'est une très bonne question aussi puisque Biltoki à Dijon, c'est au travail. C'est public, en fait il y a un grand projet à Dijon qui vient de sortir qui s'appelle la Cité internationale de la gastronomie et du vin, et dans lequel la ville souhaiterait implanter une halle gourmande, et donc on travaille avec les services de la ville et le promoteur de l'opération pour voir si on y arrive.
Jean-Christophe Sibéras, quand on entend là, toutes ces initiatives pour redynamiser nos centres-villes, quel est votre sentiment par rapport à tout ça?
Bah, je trouve que c'est super parce que évidemment on voit bien ça répond à des besoins de vie, de relations, de contacts, de proximité. Mais la question que je me pose en vous écoutant, c'est les géants du e-commerce comme on dit, est-ce qu'ils vont pas concurrencer ça parce qu'ils ont des moyens d'envoi
colossaux.
Comment ça se passe cette bagarre, c'est un challenge ou c'est complémentaire, je ne sais pas.
Bah, moi, je dirais que c'est complémentaire. C'est-à-dire que
Nicolas Barre.
Nous, il y a plein de. En fait, il y a beaucoup. La France est un pays de savoir-faire. savoir-faire manuel qui ne sont pas délocalisables ailleurs. Et aujourd'hui, on est capable de produire en France du mobilier qui coûte moins cher qu'IKEA. À partir du moment où des designers et des artisans bossent ensemble, nous on a tout un tas d'exemples, on a déjà fait avec des promoteurs justement pour leurs futurs acquéreurs, où les futurs acquéreurs ont acheté leur cuisine chez nos artisans, coûtait moins cher que celle d'IKEA. Donc c'est juste que...
Il faut le savoir aussi.
Oui, mais c'est juste qu'on...
Comment c'est possible d'être moins cher qu'IKEA?
C'est juste, à un moment, IKEA, c'est quand même IKEA ou d'autres. Hein. Ils prennent de la matière en Europe, ils la balancent en Chine, et après ça revient dans leur plateforme et ça revient là. Donc il y a des coûts qui sont hallucinants là-dedans.
Des coûts de transport.
Donc on achète un truc chez IKEA, je ne sais pas, il y a combien de pourcentage même si c'est pas cher, même si c'est design, qui sont dans des trucs surréalistes, quoi, qui ne servent à rien. Bah, à un moment, quand l'artisan et le concepteur, il est à 5 minutes de l'endroit où on fabrique sa cuisine, il y a tout un tas de coûts qu'on a en moins. Puis après, c'est juste une histoire dans le coût d'un produit, hein, en tout cas dans un produit... Dans un mobilier ou artisanal, il y a le coût de la conception, le coût de la matière et le coût du temps passé. Bah, il suffit de s'adapter à son client. Hein, bon, après, il y a des...
On peut fabriquer chez nous et avoir aussi des produits au même prix, voire moins cher, c'est ce que vous nous dites.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples aujourd'hui en France de marques... comme le slip français de Vialet ou d'autres, ils fabriquent en France. Ils fabriquent pas.
Mais alors justement, concrètement, moi, je vais chez IKEA, mais finalement... Comment faire connaître vos endroits là? Comment faire passer l'idée? Alors évidemment aujourd'hui on le fait, mais
on le fait, oui. Et heureusement.
Non, mais vous faire connaître, voilà.
Effectivement, il y a besoin de, parce qu'aujourd'hui un Français ne connaît pas forcément des artisans, il s'imagine que l'artisan ça coûte un bras.
Et c'est pas le cas, c'est ce que vous nous avez dit aujourd'hui. On l'a vu pendant tout au long de cette émission. Merci à vous trois d'être venus sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h39. Europe 1. Elle est très peu connue et pourtant vous avez peut-être déjà remarqué les chaises en métal au parc de Versailles ou sur la promenade des Anglais. Edmond et Fils, c'est l'entreprise qui va bien, merci. La France bouge sur Europe 1, tous les jours jusqu'à 14h. Et tous les jours, Elisabeth Assayag, nous découvrons une entreprise qui va bien. Elle est française forcément. Et celle d'aujourd'hui, on a pris le soleil grâce à elle. Et ça fait du bien. Parce que cette entreprise n'était pas destinée à habiller nos parcs et nos jardins. Bonjour Pascal Rey.
Bonjour.
Vous dirigez la marque Edmond et Fils. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, parce que bon, c'est vrai, hein, vous n'êtes pas très connus. Edmond et Fils, ce sont les chaises en métal bleu, vous savez, de la promenade des Anglais à Nice. Et, ou encore les chaises au jardin des Tuileries, ou encore le mobilier du jardin du Luxembourg. Elles sont inusables, elles sont confortables. À la base, Edmond et Fils, c'est le travail seulement du métal ?
C'est le travail du métal, la passion du façonnage, de l'assemblage du métal. Et donc c'est Edmond Chastanier qui a fondé l'entreprise en 1976, qui avait repris une petite fabrique de guide-fil pour des machines de l'industrie textile. Et puis de fil en aiguille, l'entreprise a grossi un petit peu. C'est désormais une PME familiale qui a été reprise par la seconde génération et la troisième génération est rentré dans le moule Edmond et Fils. Et donc maintenant, nous fabriquons du mobilier pour des lieux d'exception, mais aussi pour tout un chacun.
Alors, vous dites que vous êtes à la fois artisan et industriel. C'est-à-dire,
on a des compagnons dans les ateliers qui forment les pièces, qui les soudent. C'est un travail qui demande la dextérité, c'est très très manuel. Et on est industriel parce que par certains côtés, on a une usine qui est moderne, on a la technologie, donc on a des machines de découpe laser.
Elle est où votre usine ?
Elle est à Tence, en Haute-Loire.
Et alors donc, usine, entreprise industrielle, vous êtes artisan et c'est aussi donc une entreprise familiale, hein, vous nous l'avez dit. Oui. Il y a toujours Yves et Maurice à la tête de l'entreprise, troisième génération présente.
Oui, c'est la troisième génération, la quatrième arrive en couche-culotte et je pense qu'ils ne tarderont pas de nous commander. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Edmond, 94 ans, vient encore tous les matins dans les ateliers, il vient lire son journal et prendre des
nouvelles.
Il jette
un œil un petit peu.
Toujours, toujours, il a toujours l'œil sur tout ce qui se passe.
Ça se passe bien. Ouais. Mais alors, comment on fait pour rester en vie comme ça? Comment on fait pour résister?
On s'applique tous les jours. On travaille, on est passionné par l'acier, par les choses, les belles choses, par le respect de l'authenticité. Et donc nos mobiliers sont très robustes, ils sont connus et reconnus. Maintenant, on a énormément de références. Et tous les jours, c'est un travail de longue haleine. Tant que la perfection n'est pas atteinte, on lâche pas le morceau.
Combien de temps pour fabriquer une chaise ?
Ça se travaille en quelques journées par plusieurs postes de travail, mais oui, c'est quelques journées. Tout dépend le niveau de finition, parce que chez Edmond & Fils, on personnalise tout. Donc, il y a énormément de nos mobiliers qui repartent avec une découpe laser, avec le prénom des enfants ou le nom du domaine. On s'amuse tous les jours chez Edmond & Fils.
Jean-Christophe Sibéras, notre coach.
Alors, c'est intéressant parce que j'ai compris qu'il y avait des chaises. Vous faites des bancs aussi ?
Oui.
Des tables ?
Des tables.
Des tabourets ?
On fait des tabourets.
Des parasols ?
On ne fait pas de parasols, non.
Des fois, il n'y a pas de soleil. Quoi,
oui.
Donc, je vous donne des idées, peut-être.
Oui.
Et des chaises inclinées, c'est une super idée, ça.
Oui.
Ces chaises qui sont entre le banc de soleil et la chaise, c'est super,
voilà,
ça.
Oui. On fait également des chiliennes, donc en matériaux souples.
C'est quoi une chilienne ?
La chilienne, c'est une chaise longue, les chaises de plage qui s'inclinent. Donc, la particularité, c'est qu'on a créé une chilienne. Donc, il y a un mac souple, normalement. Et nous, on l'a créé avec des lattes en aluminium et puis des sangles qui suspendent.
Combien de salariés travaillent chez Edmond & Fils ?
Alors, chez Edmond & Fils, on est une vingtaine de salariés. Alors, vous allez me dire, mais pour fabriquer
pour
tout ça...
Pour autant de chaises,
oui. Oui, donc on est donc aux confins de la Haute-Loire et donc dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on travaille... nous, c'est tout du Made in France, Made in Haute-Loire autant que possible.
Oui, c'est pour ça que vous êtes ici. Hein.
Très chauvin. et on travaille donc avec des sous-traitants, des partenaires
locaux.
Oui, tout est local chez nous.
Et alors, comment vous faites par rapport à la concurrence ? Il y en a beaucoup d'abord, de la concurrence ?
Oui, elle est très...
On vous a beaucoup copié ?
Elle est très dense. On a été copié, mais bon, ça nous rassure. On parle souvent en notre nom. Parce que beaucoup se revendiquent d'être les fabricants des parcs parisiens. Mais pour nous, c'est excellent.
C'est l'excellence, vous voulez dire. Merci, Pascal Rey, d'être venu nous présenter l'entreprise Edmond & Fils. Et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Il est 13h47.
Merci. Europe 1.
Comment démêler le vrai du faux quand on est sur Internet ? Une plateforme sensibilise les jeunes sur les fake news, les fausses informations. C'est la solution d'aujourd'hui dans La France qui bouge. Restez avec nous. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag et avec vos invités. Tous les jours juste avant 14h, nous découvrons la solution du jour et celle d'aujourd'hui va faciliter la vie de bien des internautes. Oui, comment faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur Internet ? C'est l'ambition d'une plateforme, Aurélien Fleureau, il s'appelle Coud. Cette plateforme permet de sensibiliser les jeunes aux fake news, aux informations fausses relayées sur les réseaux.
Oui, on l'a vu avec notamment ce mouvement des Gilets jaunes. Et comme ça a déjà été le cas à de nombreuses reprises, les réseaux sociaux ont permis aux Français de se mobiliser en nombre, quitte parfois à relayer de fausses informations. Alors ça concerne les adultes, mais aussi les plus jeunes, hein, qui connaissent pourtant ces outils par cœur. Hein. Ils sont nés avec Facebook, Twitter, etc. Alors pour prévenir et pour les sensibiliser à ces rumeurs, la plateforme Coud donne des clés. Elle est gratuite, c'est un outil pédagogique destiné aux enseignants pour aider les enfants à ne plus croire tout ce qu'ils lisent. Bonjour Gaëlle Girardeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Coud. Alors, d'abord, quel a été le point de départ pour lancer cette plateforme ?
Alors, le point de départ, justement, c'est d'être une plateforme d'éducation au numérique dans toute sa globalité. Et l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, les enfants ont besoin de développer leurs compétences du numérique. Hein, et comment le faire, en fait, pour les accompagner dans le meilleur du numérique et les protéger contre le pire, hein. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a décidé de faire une plateforme ludique, donc de les accompagner par la pédagogie active et par le jeu, pour qu'ils puissent développer leurs compétences, en fait, en se disant... à la maison comme à l'école, on a besoin d'accompagner nos enfants, tout comme on leur apprend à traverser la rue ou à ne pas parler aux inconnus. Eh bien, avec Coud, on va leur apprendre à naviguer dans le monde du numérique et aussi à ne pas parler aux inconnus sur le numérique, tout simplement.
Donc, il y a des règles à connaître hein, et ça, vous leur enseignez. Quels sont les premiers retours de Coud ?
Alors, les premiers retours, effectivement, donc pour le moment, on est surtout dans les écoles et on fait ça avec les enseignants pour qu'ils accompagnent les élèves sur ces sujets-là. Et effectivement, vous l'avez dit, sur les sujets notamment très, en ce moment très importants des fake news, ça va être de savoir accompagner les enfants sur détecter les fake news et comprendre comment ça fonctionne. Donc, comment ça va se faire concrètement, c'est simplement, en fait, les enseignants vont leur apprendre à programmer leur propre jeu vidéo sur les fake news, ce qui fait qu'en fait c'est eux qui vont définir les règles du jeu. Donc en fait typiquement je vous donne un exemple d'un petit jeu qui va être un journaliste qui va devoir écrire un article. Donc cet article il va falloir qu'il aille chercher des sources différentes et quelles sont ces sources. Donc en fait les enfants vont devoir réfléchir à quelles sont les sources qui existent, quels sont les points que je vais attribuer à chaque source pour que quand le joueur joue en fait, quel point il va avoir. Donc ça amène à des réflexions très intéressantes et de façon transversale entre les enseignants puisque le professeur de mathématiques va pouvoir apprendre à programmer, le professeur de français va s'occuper justement de l'écriture du scénario, le professeur d'histoire sur les sources, même le professeur d'art sur la partie design. Donc voilà comment ils vont pouvoir faire ça en cours.
Et ça se fait à différents niveaux, à partir de quel âge ?
Alors nous on s'est pour l'instant concentré sur la partie collège, puisque c'est vraiment à cet âge-là où il est vraiment essentiel vraiment d'être accompagné dans le numérique, puisque c'est l'âge où on commence à être autonome sur le numérique. En général, à partir de la 6e, hein, on le voit, nos jeunes commencent à avoir des téléphones portables et à être seuls sur le numérique.
Donc à partir de la 6e, Jean-Christophe Sibéras.
Je trouve ça très bien pour les enfants, mais même nous, les adultes, de temps en temps, on a du mal à s'y retrouver. Alors, comment vous pourriez nous aider ?
Alors, en fait, tout simplement, c'est un très bon point. Déjà, on commence à former les enseignants, parce qu'effectivement, eux-mêmes ont besoin d'être formés.
Bien sûr.
Donc, effectivement, ça, c'est notre première façon d'amener les adultes à être accompagnés. Et finalement, les enfants, à la maison, comme je le disais, c'est aussi à la maison, là où ils vont peut-être moins être acteurs, ils vont avoir des jeux auxquels ils vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir le faire avec leurs parents. Et finalement, on l'a vu, hein, comme l'écologie, c'est les enfants qui vont amener les parents vers l'écologie.
Ouais.
Exactement, c'est eux qui vont pouvoir former leurs parents. Parce qu'en plus, on ne fait pas que les fake news. Hein, mais comme je disais, par exemple, apprendre à sécuriser son mot de passe, on va apprendre aux enfants à quel mot de passe de leurs parents. Et du coup, les parents, ils vont apprendre à sécuriser leur mot de passe.
Donc bientôt, à destination des particuliers aussi.
Tout à fait. Déjà en ligne, s'ils veulent bêta-tester, comme on dit, c'est-à-dire nous faire leur premier retour justement sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas.
On fait comment pour vous trouver ?
On va sur coud.fr et on s'inscrit.
COOD, hein, c'est pas comme un coup.
COOD. Tout à fait, bien vu.
Merci Gaëlle Girardeau d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci Jean-Christophe Sibéras, notre coach.
Merci.
Aurélien, merci. Demain, nous parlerons des entreprises qui équipent les stations de ski. Vous allez voir, il y en a beaucoup, Anissa.
Cette saison, merci beaucoup. Ça sent bon les vacances. Merci Elisabeth Assayag. Et à demain, bien sûr, à partir de 13h sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelatte. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vous raconte une affaire criminelle qui est en fait un crime passionnel, un crime familial. L'assassinat de Christophe Lejard en novembre 2010 à Rognonas, près d'Avignon.
Alors, qui a tué Christophe Lejard ? Eh bien, vous le saurez dans un instant grâce à Christophe Ondelatte à partir de 14h sur Europe 1.